Ce n'est pas sans une certaine anxiété que je me présente devant vous ce matin après 2 ans et demi de silence. 2 ans et demi de silence, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai eu des problèmes de santé. Aussi, je vous invite maintenant à me suivre dans le livre de la Genèse, au chapitre 37e. Genèse, chapitre 37, où nous lirons les versets 1 à 17. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Et voici l'histoire de la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères, et cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femmes de son père. Et Joseph rapporta à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce que ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune, les 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, « Tes frères, ne faut-il pas paître le troupeau à Sichem ? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël, c'est-à-dire Jacob, lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu ? Que cherches-tu ? » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils sont, où ils font paître leurs troupeaux. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, « Allons à Dothan. » Joseph alla vers ses frères et il les trouva à Dothan. Vouloir cerner au plus près l'exemple que nous laisse Joseph, l'acteur principal de ce récit nous demande, me semble-t-il, pour le moins, que nous prenions en compte le contexte, le cadre familial dans lequel Joseph est né, a grandi et a évolué. Et c'est pourquoi nous devons tout d'abord nous souvenir que dans la mémoire de Joseph, dans le regard de Joseph, dès sa plus tendre enfance, dès son plus jeune âge, il a vu, s'est inscrit dans cette mémoire, le visage de 4 femmes. Il eut tout d'abord, et tout naturellement, celui de sa mère Rachel, puis de sa tante Léa, également celui de Bilha, la servante de Rachel, et enfin le visage de Zilpa, la servante de Léa. 4 femmes donc qui ont eu chacune, nous le savons, les faveurs de Jacob, qui leur ont donc donné, accordé ainsi, des fils et des filles. Aussi, essayez d'imaginer, ne fût-ce que l'espace de quelques instants, quatre femmes dans un même foyer. Quatre femmes, avec chacune leur caractère, leur sensibilité, leurs prétentions, leurs désirs inassouvis et légitimes, leurs revendications, accompagnées de son cortège de luttes intestines et de zizanies sans fin. C'est donc dans ce contexte-là, dans ce cadre, que Joseph est donc né, qu'il a grandi. Mais ayant rappelé cela, il nous faut tenir compte d'un cinquième personnage, d'un cinquième visage auquel Joseph a été confronté. Et c'est bien sûr celui de Jacob, son père. Qui est un personnage, lorsque l'on lit les chapitres qui précèdent, est loin d'être un cadeau. C'était un menteur, un usurpateur, un roublard, un trouillard de premier ordre, qui, à quelques exceptions près, a toujours placé sa confiance, son espérance, non pas dans le Dieu de ses pères, non pas dans le Dieu d'Abraham et Isaac, mais dans ses forces, dans ses ruses, et non pas dans ce Dieu qu'il a appris à connaître dans sa vie. Et c'est ce qui m'amène à dire que ce jeune garçon de 17 ans n'avait vraiment pas de quoi être fier de son paternel, ni d'ailleurs de ses 10 frères, dont il nous faut également parler ici. Aussi, à leur sujet, écoutez le descriptif que nous en donne Jacob lui-même dans un des chapitres qui suit notre texte. Jacob est alors au soir de sa vie. Sa pierre tombale est depuis longtemps déjà taillée. Elle est prête à être livrée. Aussi va-t-il rassembler ses dernières forces et autour de lui, ses fils, autour de son lit de mort, ses fils, pour leur transmettre un message précis, direct, personnel, mais prophétique également. Et ce message, à bien le lire, il a le mérite de nous les présenter sans fard ni complaisance aucune. S'adressant tout d'abord à Ruben, son premier-né, il lui rappellera qu'il est sa force et les prémices de sa vigueur, mais qu'il n'aura pas pour autant la prééminence sur ses frères parce qu'il a couché avec sa femme. Il a couché avec Bilha, sa femme, sa concubine. Quant à Siméon et Lévi, Jacob dira qu'ils sont frères et qu'ils le sont surtout par leur méchanceté. Ce sont deux hommes coléreux, cruels, menteurs, et qui n'ont pas hésité de tuer leurs semblables et couper les jarrets des taureaux. Vient alors le tour de Judas. Judas, non sera-t-il, sera un chef. Le sceptre ne s'éloignera pas de lui, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Il a la force d'un jeune lion, et comme tout jeune lion, il sera craint, on aura peur de lui. Mais il a encore ceci de particulier, ce fameux Judas, c'est qu'il aime lever le coude. Il aime lever le coude non pas pour boire de la Vichy Saint-Dior, mais du vin. Le texte nous dit qu'il avait les yeux rougis par le vin. Concernant Zabulon, et je continue à paraphraser parce que je ne vous ai pas lu en détail tous les textes, ce dernier a l'avantage de n'être distingué ni en bien ni en mal. Mais les indices bibliques que nous trouvons dans les Écritures nous font penser que ce fut un homme d'action, un homme toujours en mouvement, jamais satisfait, et qui n'avait qu'un but, celui de s'enrichir. Dans le livre du Deutéronome au chapitre 33, chapitre consacré aux bénédictions prophétique de Moïse, que Moïse adresse aux 12 tribus d'Israël, il dira ceci: réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses. Réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses. Annonçant de la sorte les nombreux voyages qu'allaient entreprendre ses descendants. Et si je parle ici de la sorte, c'est parce qu'installé sur le pourtour des côtes de la Méditerranée, ses descendants se sont enrichis à cause de leur commerce. Et c'est ainsi que Moïse dira, ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Issachar, un autre de ses fils, lui, il est un âne robuste. C'est donc quelqu'un de solide, une force de la nature. Mais au grand dam et au désespoir de ce vieux patriarche, Issachar est un fainéant. Comme un âne, il se couche dans les étables, il courbe l'épaule devant le fardeau, sous le fardeau. Aussi, il sera assujetti, dit Jacob, à un tribut, autrement dit à un salaire, alors qu'il aurait pu travailler pour son propre compte, être son propre chef. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Zabulon et Issachar. Vient alors le tour de Dan. Dan, indique son père, et je continue à paraphraser, est-elle un serpent sur le chemin, une vipère, mordant le talon du cheval. Son but est donc tout simplement de faire tomber le cavalier, de le renverser. Une vision qui trouble à ce point Jacob, qu'il s'écriera dans une courte prière, « J'espère en ton secours, ô Éternel. J'espère en ton secours, ô Éternel. » Gad, un autre encore de ses fils, est sans miséricorde. Il rend coup pour coup. Quant à Azer, il ne vit que pour la bonne chair. Il produit, est-il écrit, une nourriture excellente et fournit les mets délicats dignes des rois. Et c'est ainsi que si Zabulon, dont on vient de parler, Zabulon n'avait qu'un but et avait pour Dieu l'argent, Azer, nous pouvons l'imaginer, avait Dieu pour ventre. Nephtali est quelqu'un qui n'a de compte à rendre à personne. Il est tel une biche et qui affectionne la liberté. C'est également un bon parleur. Mais il faut croire que si aucun de ses écrits, de ses discours ne nous est parvenu, c'est qu'il n'avait certainement rien d'intéressant à nous transmettre, à nous dire. Vient alors en dernier lieu, Benjamin, frère germain de Joseph. Mais combien différent de ce dernier, car à l'instar de Siméon et de Lévi dont on a parlé, il est cruel, tel un loup qui déchire et dévore sa proie. Oufti, a-t-on envie de dire. Oufti, ils sont tous bons à tchouki de Vincetch et à Inelmous. En français courant, quelle famille que celle-là. Ils sont tous bons à pousser dans un sac et à jeter dans la Meuse. Ainsi donc, il apparaît que pas un seul ne s'est démarqué dans cette tribu pour vivre selon la pensée de Dieu. Pas un seul, sinon Joseph, pour qui son père n'aura que des éloges et des promesses de bénédiction divine. Oui, Joseph est l'exception à la règle. Et pourtant, il aurait pu se noyer dans l'anonymat. Il aurait pu choisir de ne pas se démarquer et ainsi être vivre comme tout un chacun. Et qui, je vous le demande, aurait pu le lui reprocher? Qui? Oh, certainement pas ses parents, dont nous avons vu un peu la photo, ni encore moins ses frères qui nous l'avons lu, l'ont pris à tel point en haine qu'il ne pouvait lui parler avec amitié. Alors n'ayons pas peur de la répétition. Jusqu'au bout, au sein de cette famille, Joseph fut l'exception, la référence. Et vous savez, sa différence, il l'a vécue sur le terrain le plus difficile de l'apprentissage de la vie, celui de l'amour et de l'obéissance. En effet, et nous l'avons lu au verset 13e, lorsque Jacob dira « Viens, je veux t'envoyer vers mes frères qui font paître les troupeaux à Sichem », La réponse de Joseph sera sans hésitation aucune. Me voici. Me voici. Alors qu'il avait, à bien y réfléchir, toutes les raisons et les meilleures pour ne pas obéir. Et signifier à Joseph une fin de ne recevoir. En lui disant, tu sais, papa Jacob, ta demande est des plus surprenantes à mes yeux. Ne crois-tu pas que c'est de l'inconscience pure? Dès lors que tu sais très bien de quel bois mes frères se chauffent, tu sais qu'ils me haïssent. Et toi, tu me demandes d'aller à Sichem, à leur rencontre, alors que toi, tu l'aurais peut-être oublié, mais qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait lorsque, devant ton frère Ésaü, alors qu'il te haïssait, sur le conseil de ta mère, tu t'es enfoui. Tu as laissé le plus de distance possible entre lui et toi. Et maintenant, tu me demandes ce que toi-même, tu n'as pas fait autrefois. Et puisque tu m'appelles à aller à Sichem, parlons-en. Mais j'aimerais te rafraîchir encore la mémoire en te lisant un passage de la Genèse au chapitre 34, où est consignée l'une des pages les plus sombres de l'histoire de notre famille, une page écrite dans le sang, dans une tuerie des plus odieuses qui a vu plusieurs de tes fils passer au fil de l'épée les habitants mâles de Sichem, piller leur ville, prendre leurs troupeaux, leurs bœufs, leurs ânes, tout ce qui était dans leur ville, dans les champs, ainsi que leurs richesses, leurs femmes et leurs enfants. Aussi, penses-tu vraiment que les Cananéens, les Phérésiens, les habitants de cette contrée ont oublié cet épisode nauséabond? Comment peux-tu dès lors m'envoyer là-bas au risque de m'exposer à leurs représailles? Mais j'aimerais encore te parler de Sichem, si tu le veux bien. De cette ville, de cette région qui, comme tu le sais, ne se trouve pas à la porte d'à côté, à vol d'oiseau. Et je l'ai contrôlé dans la belle carte en couleur que tu m'as offerte à l'occasion de mon anniversaire. À vol d'oiseau, cet endroit se situe à 80 km de la vallée d'Hébron où nous sommes. Aussi, lorsqu'il me faudra contourner une montagne pour aller à Sichem, après m'être enfoncé dans une vallée comme la nôtre, et de gravir plus tard une colline, tu sais très bien, papa Jacob, que ces 80 km vont s'allonger d'une manière assez importante. Aussi, je te demande, papa Jacob, te rends-tu bien compte de ce que tu me demandes? Et tout cela pour aller voir mes frères qui me haïssent, et voir si tes troupeaux sont en bon état. Il y a de cela quelques années, avec Eliane, nous avons parcouru en partie, je dis bien en partie, cette région dont il est question dans notre texte. Et le souvenir que j'en garde, il est extraordinaire. Car il y a là, vous savez, des paysages à vous couper le souffle. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que Dieu dira que le pays d'Israël est le plus beau pays de la terre. Alors ces paysages, bien sûr, si l'occasion me le permettait, ces paysages, j'aimerais bien sûr les revoir. Mais croyez-moi, je ne parcourrai pas ce que l'on appelle aujourd'hui le désert de Juda. Je ne le parcourrai pas à pied, sans guide. Joseph, lui, ce jeune garçon de 17 ans, n'a pas eu le choix. C'est bien à pied et sans guide qu'il est allé à Sichem, pour finalement découvrir, après de longues et harassantes journées de marche, que ses frères n'étaient plus là, et qu'ils s'étaient volatilisés dans la nature. Aussi, dites-moi, qu'auriez-vous fait? Quelle aurait été votre réaction dans de telles circonstances? Qu'auriez-vous fait à la place de Joseph? En tout cas, si j'avais été à sa place, L'absence de mes frères n'aurait pas été pour moi un problème, mais plutôt une aubaine inespérée. Car après avoir pleinement accompli la volonté de mon père, tel un fils modèle, cerise sur le gâteau, ses frères qui me haïssaient, cette rencontre avec eux m'a été épargnée. Aussi, soulagé, et sans hésitation aucune, j'aurais repris le chemin du retour. Et croyez-moi, il aurait été bien plus léger, bien plus agréable que celui qui m'a conduit à Sichem. Oui, voilà ce que j'aurais fait, très certainement. Tel aurait été mon choix, alors que celui de Joseph, nous l'avons lu, fut tout autre. Au verset 15e, nous lisons « Joseph errait dans les champs ». Moi, je serais parti, je serais rentré. Joseph, lui, il continue d'errer dans les champs. Et qu'il allait ça et là, souligne les deux derniers versets de notre texte. Non pas parce qu'il s'était égaré, non pas parce que son sens d'orientation lui faisait défaut, ou qu'il était à la recherche d'un panneau directionnel lui indiquant la vallée d'Hébron. Non, parce qu'il était en quête de ses frères. Je cherche mes frères. Je cherche mes frères, dira-t-il à cet étranger qu'il a interpellé. Voilà la raison de ma présence. Voilà pourquoi je gère dans ces lieux. Je les cherche. Et nous voyons que la démarche de ce jeune garçon va l'amener jusqu'au bout. Et il le fera non pas à contre-cœur, non pas parce qu'il ne pouvait faire autrement, mais parce que l'amour qu'il portait pour ses frères portait la marque de sa sincérité. Mais c'est également vrai quant à son obéissance et sa persévérance. Et pour preuve, lorsqu'il apprendra que les fils de Jacob sont à Dothan, à une distance de 20 km à vol d'oiseau, il reprendra le chemin sinueux, escarpé, rocailleux du désert de Juda, afin de le rejoindre. Et c'est ainsi qu'il est consigné à la fin du verset 17e, il alla à Dothan, auprès de ses frères, et il les trouva. Il les trouva d'autant, c'est-à-dire là même où il allait être dépouillé de ses vêtements par ses frères, jeté dans une citerne et finalement vendu à des Ismaélites qui passaient par là et qui descendaient en Égypte. Et nous trouvons cette histoire à la suite de notre récit. Oui, Joseph, volontairement, est allé jusqu'au bout de son obéissance et de son amour. Aussi, dites-moi, à qui ça nous fait-il penser directement? À qui? Sinon à Jésus, sinon au Fils de Dieu, qui a dit « me voici pour faire ta volonté » et qui est allé jusqu'au bout de son obéissance à son Père Céleste et de son amour pour nous. Il est allé jusqu'au bout de son obéissance. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, Jésus dira « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et cette volonté, nous le savons, a été de nous réconcilier avec lui, de nous accorder son pardon et son salut, au prix de ces souffrances que nous rappelons dimanche après dimanche en prenant ce pain et ce vin, au prix de ses souffrances et de sa mort sur la croix. C'est pourquoi nous pouvons dire que si Joseph a cherché et a trouvé ses frères à Dothan, Jésus nous a cherchés et nous a trouvés à Golgotha. Combien grand est l'amour de notre Dieu! Combien grand est l'amour de notre Sauveur Jésus-Christ. Cet amour jamais ne cessera de nous confondre et de nous interpeller. Mais puisque ce matin, c'est de l'exemple de Joseph qu'il est question, de son obéissance et de son amour, ce dernier, cet exemple, ne nous interpelle-t-il pas également? Et ne nous invite-t-il pas à considérer la mesure de notre obéissance, de mon obéissance, de notre amour, de mon amour pour Dieu. Oh, bien sûr, nous disons que nous l'aimons. Si je vous posais la question ce matin, en vous demandant, est-ce que vous aimez Jésus-Christ? Est-ce que vous aimez Dieu? Bien sûr que tous répondraient par l'affirmative. Mais alors, comment cela se fait-il que notre communion avec notre Seigneur, notre intimité avec lui, jour après jour, est réduite à sa plus simple expression, tout comme pour notre étude personnelle de notre Bible? Faut-il croire que cette lettre d'amour qu'il nous a envoyée, que nous ouvrons dimanche après dimanche, pour lire un texte ou pour y prêcher, faut-il croire que cette lettre d'amour nous indiffère au point de ne plus éprouver la soif, le besoin de la parcourir, d'apprendre à mieux connaître notre Créateur, de contempler le Dieu de gloire, sa grandeur, sa magnificence? Notre âme soupire-t-elle après lui? En introduction à ce culte, il nous a été rappelé une parole du psalmiste. Il nous a été rappelé « Je soupire après toi ». C'est bien ça. Mon âme soupire-t-elle après lui? À l'instar du prophète Ésaïe, qui dans l'une de ses prières dira « Mon âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit. » Oui, mon âme, notre âme, soupire-t-elle après le nom ineffable de Dieu, après son souvenir au point de le désirer même la nuit? Est-ce là la mesure de notre amour? Ou bien, je suis ce chrétien rassasié. Je suis riche de ce qui m'a apporté au culte le dimanche matin ou encore à l'heure de l'étude biblique. Cela me satisfait. Cela me suffit. Si tel est mon cas, si tel est notre cas, alors il est temps pour moi, pour nous, de prendre en compte de l'avertissement du chapitre 6 de l'évangile de Luc, où Jésus déclare « Malheur à vous !» Et c'est à nous qui sont adressées ces paroles. « Malheur à vous qui êtes riches et rassasiés, car viendra ce jour où vous aurez faim. » Vous aurez faim. Chers amis, si c'est ainsi que nous considérons la parole de Dieu, si nous n'avons pas soif de lui, un jour, vous aurez faim, dit le Seigneur. Chers amis, si dans le secret de notre cœur, il nous fallait répondre à toutes ces questions que je viens de poser, quelle serait alors, au regard de l'exemple que nous laisse Joseph, notre réponse? Ma réponse. Il me faudrait avouer, dans un esprit de repentance ma tiédeur, et reconnaître le décalage qui existe entre ma vie et l'exemple que nous laisse Joseph, exemple d'obéissance, d'amour, que nous retrouvons chez Moïse, chez des hommes tels que Moïse, chez David, Ésaïe et tant d'autres. Mais j'aimerais en conclusion nous laisser un exemple. Un exemple qui nous est bien plus proche. Celui d'une femme, du nom de Mary Jones, qui est née au XVIIIe siècle de notre ère, dans une petite chaumière de la campagne du pays de Galles. Ses parents étaient très pauvres, mais aimaient le Seigneur et se rendaient chaque semaine en famille dans la petite chapelle du village pour le culte et pour y adorer leur Dieu. Là, Mary Jones écoutait avec émerveillement ce que le pasteur lisait dans sa vieille et grosse Bible. Et à l'âge de 8 ans, elle offrit son cœur à Jésus. Et sa plus grande joie était d'entendre, d'écouter les histoires de la Bible et de mémoriser les versets qu'elle entendait le dimanche matin. Mais afin de combler ce besoin qu'elle avait en elle de connaître toujours davantage, plus profondément les enseignements de la parole de Dieu, elle s'est mise à prier. Et savez-vous ce qu'elle demandait à Dieu? J'aimerais apprendre à lire. J'aimerais apprendre à lire. J'aimerais que l'occasion s'offre à moi. Un jour, Alors qu'elle avait 10 ans, son père lui annonçait qu'une école allait ouvrir dans le village voisin. Quelle joie pour Marie! C'était pour elle la réponse à ses prières. Et c'est ainsi que, jour après jour, elle allait parcourir, souvent pieds nus, les 3 kilomètres qui la séparaient de l'école, jusqu'au jour où, ayant appris à lire, son professeur lui a permis de faire une lecture dans la parole de Dieu. Après cet événement, elle a pris la décision d'acheter une Bible, même si celle-ci était chère. Mais en attendant, une voisine invita Marie à venir chez elle pour lire la Bible. C'est ce qu'elle fit chaque samedi. Après avoir aidé sa mère aux tâches ménagères, avec courage, elle employa aussi tout son temps libre pour travailler, afin de gagner un sou par-ci, un sou par-là. Elle éleva des poulets, vendit des œufs au marché, ramassa des bois morts pour ses voisins, garda de jeunes enfants, fit pousser des légumes pour les vendre, s'occupa d'une ruche dont elle vendit le miel, aida les fermiers à récolter leurs moissons. Bref, elle travailla très dur et saisit toutes les occasions qui se présentaient. Et cela, elle allait l'accomplir pendant 6 années. Une petite fille de 10 ans qui va entreprendre cette démarche durant 6 années. Le temps passa et un beau jour, après 6 années, la somme voulue fut atteindre, 100 francs. 100 francs. Elle allait donc voir son pasteur pour savoir où acheter une Bible. Et celui-ci de lui répondre que dans la ville voisine à Bala, le pasteur Charles pourrait lui en vendre une. Mais c'est à 40 kilomètres de marche. Loin d'être découragée, Marie se dépêcha d'aller chez elle pour en informer ses parents. Et sans tarder, et avec leur bénédiction, elle entreprit ce voyage qui était très dangereux. Mais elle plaça sa confiance en Dieu et pria pour qu'il la protège. Elle marcha toute la journée et arriva enfin à Bala, tard le soir, fatiguée, affamée et les pieds cloqués. Tout le lendemain matin, très excitée, elle alla voir le pasteur Charles, qui la reçut avec bienveillance et écouta son histoire. Ému par son récit, il lui dit avec tristesse « Je suis désolé, mais la seule Bible que j'ai en ce moment, je la garde pour quelqu'un d'autre qui l'a consignée. » Mais lui, fondit en larmes, pensant rentrer chez elle sans Bible. Alors le pasteur, touché au plus profond de son être, s'empressa de lui dire, « Mais oui, tu auras ta Bible. Je vais te la donner. Celle que j'ai pour l'instant, je te la donne. Et j'en commanderai une autre pour celui qui est passé avant toi. » Il alla chercher cette précieuse Bible. Il la donna à Mary, et qui, submergée de joie et d'émotion, entreprit tout de suite son long voyage du retour avec son précieux trésor sous le bras. Arrivée chez elle, toute la famille se rassembla et elle ouvrit sa Bible et la lut. Au fil du temps, Mary continua de lire sa Bible tous les jours. Plus elle grandissait, plus elle aimait Dieu et sa parole. Nous savons peu de choses sur le reste de sa vie, sinon qu'elle s'est mariée, qu'elle eut 8 enfants, et survécu à son mari. Mais la Bible est restée la même pour elle, pénétrant toujours plus profondément dans son cœur, la guidant chaque jour. Mary Jones mourut le 8 décembre 1866, à l'âge de 82 ans. Nous avons cité ce matin plusieurs exemples et ce qui s'est passé à la suite. Et cet exemple de Marie ne s'arrête pas là, car les conséquences de la foi de cette jeune fille furent immenses et durent encore aujourd'hui. Voilà la portée de cet exemple, de cet amour et de cette fidélité à l'égard de son Dieu et de sa parole. Le pasteur Charles, bouleversé par l'histoire de Marie, la raconta en 1802 aux membres de la Société de distribution de littérature. Ils décidèrent d'imprimer des Bibles, non seulement en gallois, mais dans toutes les langues du monde. Le 7 mars 1804, la Société biblique britannique étrangère fut fondée puis d'autres filiales, dont la française en 1822. Aujourd'hui, la Bible est traduite en plus de 2000 langues. Elle demeure le livre le plus imprimé du monde, plus de 2 milliards depuis l'époque de Gutenberg. Nous qui avons la Bible et qui pouvons nous en procurer facilement, sommes-nous conscients de ce privilège? Avons-nous soif de la parole de Dieu? Et lisons-nous régulièrement? Est-elle notre guide? La faisons-nous connaître? Ou bien nous lisons quelques versets le soir pour calmer notre conscience? Je me réjouis de ta parole, comme celui qui a trouvé un grand butin, dira le psalmiste, et d'ajouter, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Inclinons-nous dans la prière. Père céleste, Dieu tout-puissant, après avoir considéré l'exemple de Joseph et mis ainsi en exergue sa persévérance, l'obéissance et l'amour dont il a fait preuve jusqu'au bout, la démonstration, il nous faut reconnaître et confesser devant toi et les hommes notre tiédeur, ma tiédeur, notre indifférence, mon indifférence, et te demander pardon. Oui, pardon, Seigneur, de t'avoir consacré si peu de temps dans ma vie de prière, ainsi que dans la recherche et l'étude persévérante de ta parole. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous n'avons pas cherché ta présence afin de te contempler et t'adorer toi, notre Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, pardonne-nous d'avoir vécu si souvent comme si tu n'existais pas et de t'avoir si peu aimé. Aussi, dans ta compassion et ta grâce, relève-nous, nous te le demandons, et accorde-nous un cœur bien disposé, disposé à t'aimer sans réserve. C'est dans le nom de Jésus, notre Sauveur, que nous te le demandons, Père. Amen.